Voix nue. Cette semaine, Caroline Brouet rencontre Jacques Weber. Ce soir, le corps pense et le cerveau sue.
Bonsoir Jacques Weber.
Bonsoir.
On s'est quitté hier sur cette expérience un peu étrange pour vous qui a été de jouer dans la dernière bande de Samuel Beckett sous la direction de Peter Stein. Et vous disiez, c'était un peu étrange pour moi, qui était jusque-là habitué au texte, et que, en fait, le texte dans cette pièce ne fait que 15 minutes sur une heure et demie de spectacle. Eh bien, cette expérience me conduit à vous poser abruptement cette question aujourd'hui, où on va aborder votre métier, la conception de votre métier d'acteur. Quel comédien êtes-vous ? Est-ce que vous êtes un comédien de tête, de mots, de corps ? Comment abordez-vous votre métier ?
Ben vous me faites réfléchir, c'est bien. D'abord, moi, je suis quelqu'un qui a toujours dit ce qui est très énervant chez les acteurs français, c'est cette façon dont ils ressemblent à Pierrot Gourmand. Bon, vous allez me dire ce que ça veut dire. Ben, Pierrot Gourmand, il y a la tête, il y a une espèce de collerette comme un plateau, comme si la tête était coupée et le corps n'est plus qu'une chose fantomatique et blanche. Et je me disais que, oui, il y a trop souvent en tout cas, ce que j'ai connu moi à mes débuts, ce qu'on m'a enseigné, puisque j'ai souvent vu une séparation extrêmement nette entre le corps et la tête. Et très souvent, le cerveau travaille plus que le corps et le cœur et le sang. Et ça m'énerve beaucoup. Je crois que l'art de l'acteur, c'est tout simplement donner le corps, non pas donner du corps, mais donner le corps à la pensée. J'avais dit dans un livre, j'aimais bien cette expression, pardonnez-moi de me citer, mais au théâtre, le corps pense et le cerveau sue. Et je pense que ça résume bien ce que j'ai envie de dire, c'est cette confusion qu'il doit y avoir entre la tête et le corps, cette osmose, ce mélange. Alors, est-ce que le fait que j'en parle tant, est-ce que c'est pas parce que justement, moi, j'étais très séparé en deux? Ce qui est très, très curieux, c'est que j'ai toujours eu à lutter, c'est d'ailleurs, ça a été le sens de mon prix d'excellence, c'est que j'avais à lutter sur le fait qu'on disait de Weber qu'il était une grosse nature, une espèce de chose tempétueuse, énorme, gigantesque, machin. Donc j'avais l'impression que, comme mon papa, on me prenait pour un con, quoi. Donc j'ai fait le contraire, c'est-à-dire j'ai pris le contre-pied, j'ai pris un raisonneur. Et j'ai dit que ce qui me semblait intéressant, c'est d'être plus fort que le rôle. Et le premier réflexe que j'ai eu sur un raisonneur, c'est de le mettre en botte et non pas en escarpin. Et avec viré en réplique. Et ça me semble en dire long. Alors ce qui est vrai après, c'est que j'ai toujours eu à me battre contre cette façon dont on voyait en moi une grosse nature. Et puis il y a eu un moment d'équilibre parfait entre la sauvagerie physique que je pouvais avoir, l'enthousiasme juvénile que j'avais complètement et que j'ai encore, d'ailleurs, heureusement. Et puis, une adéquation qu'il y avait parfaitement entre moi et un rôle, ça a été Cyrano. Qui plus est, entraîné par un homme qui n'était pas un intellectuel, qui était Giorgio Strehler l'appelait le poeto. C'était un homme capable d'arriver sur une place de village à 4 heures de l'après-midi et à 6 heures de vous sortir un spectacle. C'était Jérôme Savary. Et qui était réellement plus qu'un bouffon, c'était un vrai poète. Poète burlesque, poète fou, mais n'oublions pas que le Magic Circus a influencé immensément un nombre de grands metteurs en scène désormais. Et donc, cet homme, lui, m'a, avec sa faconde, avec son ingénuité, avec cette espèce de chose, alors pour le coup très très physique, qu'il avait très intuitive et physique et sexuelle, sexuée même, je dirais presque du théâtre, il m'a immensément aidé. Dans Cyrano, je prends exemple, à un moment, je larmoyais un peu le cinquième acte, il dit « Chouchou, c'est jamais le mec qui crève, qui pleure, c'est les mecs autour de lui. » C'est très con, mais c'est pas con du tout, c'est paf, c'est concret. Et puis moi, mon père, quand il est mort, il nous a dit « Champagne, il a amené les petits gâteaux, on pleurait tous comme des madeleines, mais lui, il pleurait pas, il buvait. » Point final. Moi, ça, j'aime qu'on me parle comme ça. Et maintenant, moi, mon exercice permanent, c'est de revenir toujours, ce que m'ont appris mes maîtres, au concret. Il n'y a d'intéressant dans le théâtre que du concret. La théorie, c'est « word, word, word », c'est aussi con qu'une chanson de Dalida. Mais en même temps, la chanson de Dalida est aussi belle que, j'allais dire, laissez-moi finir,
que le Wordsworth d'Hamlet de Shakespeare. Wordsworth, c'est paroles et paroles et paroles. Voilà. Je veux dire, dès qu'on me parle de théorie, ça m'emmerde. Oui, c'est ce que disait peut-être, par le mot cruauté, le théâtre et son double, d'Artaud, que je connais pas très bien, mais qui me dit quelque chose quand même.
Mais je vais quand même vous embêter, je vais pas vous...
Embêtez-moi, en fait.
Voilà, avec la théorie, en vous citant un autre grand acteur qu'est Michel Bouquet. Michel Bouquet a donné beaucoup de cours, comme vous savez, oui. Jacques Weber. Et en préambule de ses cours, il disait « L'art de l'acteur, ce n'est pas de ressentir, mais de réfléchir. » Un peu l'inverse,
oui, alors...
vous dites. Bon, après, bon.
Non, je crois pas que ça soit du tout l'inverse, parce qu'il parle de l'avance.
C'est la question que je voulais vous
et
poser.
Voilà,
c'est avant
et
ou pendant.
Il reparle très bien, d'ailleurs, d'une chose qui s'apparente de plus ou de loin, mais au paradoxe du comédien, qui est cette façon dont il faut se mettre à distance, c'est-à-dire, comment dirais-je, être désincarné pour mieux incarner. Enfin, il y a tous ces grands discours, mais tout ça revient quand même au fait que quand Monsieur Michel Bouquet, pour lequel j'ai une grande admiration, mais rentre en scène, c'est un intuitif fou furieux qui change tous les soirs. Enfin, moi, Bouquet me fait parfois, vous ne m'en voudrez pas, chers admirateurs de Michel Bouquet, il y a des fois, il me fait sourire quand il fait des discours sur l'art dramatique. C'est un acteur de génie. Mais quand il joue, je sens bien que c'est un acteur d'intuition. Et parfois, je trouve même, on ne m'en voudrait pas de le dire, alors là, je vois déjà que certains vont dire « Décidément, Weber, c'est un piteux acteur ». Mais je veux dire que quand il parle même des rôles, ou même de certains rôles, franchement, ça ne me satisfait pas énormément. Mais peu importe, c'est pas grave, on lui demande pas, lui, de théoriser. Il est un merveilleux acteur. Mais moi, il me fait penser à un fou. Il est là, il joue comme ça, il est extrêmement comme ça. Eh ben, formidable. Mais son côté théorique me fait un peu sourire. Mais il me fait penser, et pourquoi je dis ça? Alors là, je vais très loin. Parce qu'il me fait penser à moi qui parfois m'embarque dans des théories qui n'ont rien à voir avec ma façon de jouer. Je sais plus qui disait de moi que j'étais un chien truffier, moi, quand je cherchais en répétition. Je cherche toutes les voix. Je cherche tout. Parce que moi, la phrase que j'aime, c'est jouer d'abord, on parle ensuite. Proposez-moi intuitivement avec tout le corps en avant, avec les excès les pires au monde. Et peut-être qu'il en restera des excès, mais moi j'aime bien le sale dans l'interprétation. Je n'aime pas le soi-disant fini. Le soi-disant fini n'est pas fini. Ceux qui disent il faut, on en a marre de ces acteurs qui en font trop, je regrette, mais ceux qui ont été unanimement adorés comme Robert Rich, c'était des mecs dont on peut dire qu'ils en faisaient beaucoup, mais c'était magnifique, c'était totalement en situation. Enfin, alors je suis pas là, attention, j'espère que je ne serai pas coupé, mais parce que je veux dire que parallèlement à ça, je suis pas en train de faire la peau de gens qui sont extrêmement clairs, droits, au jeu le plus propre et le plus pur qui soit, parce qu'il y en a qui sont magnifiques, il y en a un qui nous a quittés, comme Lonsdale par exemple, et qui était un fou aussi. Je suis sûr qu'il y avait quelque chose de fou dans cette façon de jouer un petit peu comme ça, très très lointaine. Voilà. Donc je me perds un peu les pieds dans le tapis, mais j'ai envie de dire que je ne sais pas du tout la façon dont j'ai de travailler. Et c'est bien ça mon problème. Je dis toujours que le danseur a la chance d'être obligé de faire 4 heures de barre par jour. Le chanteur, obligé. L'acteur, il sait pas par où et comment commencer. Alors, au bout de 55 ans de carrière, je me dis qu'en fait, il faut commencer par une chose très simple. C'est apprendre bien et très précisément, à la virgule près, le texte. Car le moindre « et » ou le moindre « presque » ou le moindre « ou » le moindre « mais » indique quelque chose de différent que si vous mettez à la place un « et », ben enfin, voilà, une chose imprécise. Voilà.
Et ça, c'est valable au théâtre comme au cinéma?
Oui, je crois. Écoutez bien les grands acteurs au cinéma. Les grands acteurs au cinéma sont tous absolument audibles. On entend tout très précisément. Écoutez Gabin, écoutez Bernard Blier jouer du Audiard, écoutez Depardieu, à quel point tout est d'une clarté inouïe malgré toutes les difficultés des ingénieurs du son. Franchement, ça m'a toujours frappé. Harry Bord, je peux vous en citer, Michel Simon, toutes ces dédictions, mais nickel, c'est en place, c'est précis. Comme vous savez, je vais vous dire toute la vérité, rien que la vérité, je le jure, c'est que je me trouve, moi, très imparfait. Mais j'ai toujours pensé ça.
Encore aujourd'hui.
Ah, mais bien sûr, je suis très imparfait. Dans le jeu, c'est vrai que parfois je suis un peu sale, mais je suis un peu comme dans la vie,
Sale.
Non, pas ça. Non, quand même pas, mais je suis un peu, comme on dit, négligé. Je fais pas trop attention. Je me coiffe pas forcément en sortant. Mes chaussures sont pas cirées tous les jours. Enfin, c'est un peu l'image de mon jeu. C'est un jeu qui je crois, est très vivant, très emballé, très, je crois, très sincère. Enfin, mais.
Instinctif plus que cérébral. Avant comme pendant.
Oui, je pense. Et en même temps, lorsque je mets en scène, il me semble bien que je ne fais pas d'erreur intellectuelle. Ça, par contre, je crois. Pourquoi? Parce que je n'ai aucune vanité quand je mets en scène. Je dis pas conceptuel, c'est ça le perso, c'est ça le rôle, c'est ça le texte, c'est ça que ça veut dire. Non. Je cherche, je questionne le texte. Et ça, les grands maîtres me l'ont appris, questionner le texte. Il y a rien, on le sait très bien, c'est les questions qui nous font progresser, c'est jamais les réponses. Enfin, c'est questions. Et ça, je pense que j'ai acquis petit à petit cette humilité qui fait que je pense que je peux aider des acteurs et bien les diriger. Et parfois, peut-être, je dis bien parfois, parce que c'est pas mon métier, je peux parfois faire une belle réalisation, une belle mise en scène. Mais je dis bien parfois, comme ça. Mais c'est vrai que mon métier, malgré toutes les imperfections que j'y vois, c'est être acteur.
Jouer, vous diriez, être acteur. Jouer, c'est-à-dire aussi jouer dans toutes les acceptions du terme.
Alors, oui, jouer,
s'amuser avant toute
raison.
Chose, prendre plaisir.
Mais vous avez dit le mot, c'est jouer. C'est-à-dire que c'est tellement important de faire sérieusement quelque chose qui n'est pas sérieux. Enfin, je ne sais plus comment ce qu'on a dit, je ne sais plus quelle phrase qui veut rien dire. Mais en tout cas, comme les enfants jouent, mais très sérieusement. C'est magnifique de les voir jouer. Ils y vont à fond et ils y croient comme dur comme fer. Et moi, je pense que oui, jeu, ça veut bien dire ce que c'est. On met en jeu et on joue, on s'amuse. Et le nombre de fois où je vois des espèces de choses cérébrales sinistres qui détiennent une forme de vérité théâtrale et tout. Attention à cette phrase, parce que encore une fois, ne mêlons plus. Il m'arrive de voir des choses magnifiques qui ont l'air un peu d'être dans ce sens-là. Mais c'est quand même rare. Ce que je connais, dans le beau théâtre, je vois toujours des très très beaux acteurs qui jouent, qui prennent plaisir à le faire, la plupart du temps.
Quels sont vos maîtres? Vous citez beaucoup Pierre Brasseur, Gérard Depardieu, Gabin.
Gabin, Blier, qui était monumental, Michel Simon, Serrault d'une autre côté, qui était complètement fou à lier. Alors lui,
mais c'est la folie qui fait un bon ou un grand acteur.
Mais qu'est-ce que veut dire la folie?
C'est
ça
qui.
Oui, et j'ai peut-être tort, parce que qu'est-ce que ça veut dire fou? Ça veut dire peut-être l'inattendu, la transcendance de l'inattendu dans le réfléchi, enfin, dans quelque chose qui est déjà très réfléchi. Non, mais c'est vrai, je dis pas de conneries. C'est-à-dire, on peut tout à fait très bien travailler très calmement un texte, et à un moment donné, dans la façon de le reprendre sauvagement, de relaisser le sauvage s'introduire, il y a quelque chose qui est dans l'ordre de la transcendance. Vous savez qu'il y avait un grand intellectuel qui était Bernard Dort, qui m'avait dit un jour, vous savez, c'était un immense dramaturge, Dort, et dit, aux questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre, il parlait de lui, des dramaturges, seul l'acteur sauvage répond. Je trouve ça en dit long sur ce que j'essaie péniblement de dire ou de nettoyer un peu dans ma réflexion.
Ça veut dire aussi que quand on vous dirige, Jacques Weber, vous aimez avoir cette liberté d'interprétation.
Oui et non.
Pas forcément de l'improvisation d'ailleurs, mais.
Ce que j'adore, c'est qu'on me fasse pas prendre des vessies pour des lanternes. Deux, que si on me parle d'une théorie, il faut vraiment être très très costaud pour qu'elle soit bien étayée et que je l'accepte. Généralement, je n'y crois pas. Ce que j'aime, c'est la précision maladive qui m'amène à l'ouverture. Et par exemple, j'aime bien qu'on me dise, comme Stein un jour me dit, mais si tu me fais un poison et que tu as dit que tu mettais 9 gouttes, tu t'appliques, tu fais pas tous les jours un poison avec 9 gouttes. Donc si tu prends le poison, il faut qu'on te voit et tu comptes tes gouttes et tu me fais 9 gouttes, tu me fais pas 5 gouttes rapidement. Ça, c'est du théâtre. J'ai pas besoin qu'on m'explique le surréalisme potentiel de la biche. Voilà, c'est tout ce que je veux dire.
Je peux vous citer à nouveau Michel Bouquet?
Oui. Ça...
Vous en dites ce que vous voulez. Hein. Pour devenir un vrai comédien, il faut tout d'abord être conscient que l'on est doté d'une personnalité unique. Alors, Jacques Weber, est-ce que pour vous, le vrai comédien, pour reprendre ces termes, hein, c'est celui qui se pense doté d'une personnalité unique ou au contraire, c'est celui qui pense qu'il n'en a pas?
Bravo, madame. Non, moi je dis, je comprends pas la phrase qu'il dit. Je comprends pas la phrase parce que ça veut dire quoi? Parce que j'ai envie de dire que une banalité pour répondre à quelque chose qui me semble un peu obscur, c'est que nous sommes tous absolument uniques. Enfin, nous sommes tous des machines différentes les uns des autres. Alors, non, je pense pas qu'il faut être persuadé d'être unique. Non, au contraire, je pense que peut-être, justement, ne rien savoir sur soi, être peut-être dans l'inconfiance la plus absolue et peut-être... qu'est-ce qui se passe dans un... Je crois que le comédien est le centre même, mais peut-être pour nous tous, dans certaines circonstances, de cette espèce de frontière qu'il y a entre le sauvage et le culturel, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on nous sommes hommes? C'est la culture, c'est tout. Sinon, on serait des sauvages. On serait sauvages au sens propre du terme. Et je crois que dans le théâtre, il y a le fait présent, qui est le jeu sauvage, et le fait passé, qui est le travail qu'on lui accordait avant. Et je crois que c'est comme ça que ça se situe. Et
plus on a travaillé avant, plus on peut être sauvage.
Ah ben, je suis sûr, plus on est libre. D'ailleurs, c'est toute l'histoire de l'humanité. Comme disait Mitterrand, les forêts n'ont jamais été aussi belles que quand elles ont été travaillées par l'homme. Ça, je trouve ça merveilleux.
Jouer, c'est vivre d'autres vies que la sienne ?
Non, pas du tout. Je pense que jouer, c'est un moment tout à fait bizarre et qui passe par un moment d'inconfort épouvantable, qui est le passage entre la coulisse et la scène. Et après, dans cet endroit où tout est faux pour être vrai, pour donner du vrai ou l'impression du vrai, il y a quelque chose qui est totalement flottant, mais qui n'a rien à voir avec... on est toujours la tête d'un côté à dire « Attends, faut que je prenne le projo, faut que j'aille à droite, faut que je renverse pas, faut que si j'aille là, faut pas que je le cache, etc. » Donc il y a une distance, un paradoxe tout à fait évident entre une part extrêmement réfléchie et maîtrisée et une part libérée, voilà. Donc ce n'est pas jouer sa vie, ça c'est pas jouer, non pas du tout. On vit pas en scène, je crois pas, on vit pas.
Dans l'entrée des mots, Jacques Weber, vous avez dit acteur, je découvrirai plus tard le danger et la nécessité de ce regard défaire. La différence entre l'acteur et le cabot tient tout entière dans la façon dont le regard se pose. Ça veut dire que vous êtes souvent à regarder le travail que vous avez fait pour pouvoir apprécier ou plutôt aborder l'avenir ?
Les questions sont bien. Non, ce que je crois, c'est que on devient réellement, je pense, je sais plus tellement ce que ça veut dire un grand acteur, lorsqu'on est absolument dédouané de toute forme de vanité. Voilà, qu'on n'est plus en train d'essayer de paraître.
En représentation.
Ça ne veut pas dire pour ça qu'on est en train, on est en train d'essayer d'être. C'est pas du tout ça. Mais il y a on en est à un rapport totalement, employons le mot, au-delà d'abstrait, de spirituel, entre vous, le texte, le moment présent, le moment du metteur en scène, le partenaire, tout ça crée un autre personnage qui est non pas le personnage, mais qui est ce que vous interprétez. C'est très mystérieux ce qui se passe sur scène. C'est pour ça que quand je dis Arrow, quand j'entends dire Alcès, c'est ça, machin, non, c'est jamais ça. C'est quelque chose de très extraordinairement spongieux, comme une espèce de méduse, un truc.
Drôle d'alchimie entre un acteur et un personnage.
Il n'y a pas de personnage, il y a une relation entre un texte, un acteur avec tel âge, telle situation, telle journée de travail, et puis tel public ce soir-là. Le spectacle que je joue, par exemple, en ce moment ou à d'autres, change beaucoup selon les soirs, tout le temps. Quand on dit, mais comment vous faites pour répéter toujours la même chose? C'est bon, alors je ne vais pas vous dire ce beuh-bah, mais c'est en effet jamais tout à fait la même chose. Et en même temps, c'est l'art de la reproduction par excellence. C'est ça, mais si on va plus loin, on se rend compte que, je ne sais plus quelle philosophie est ça, mais il n'y a pas de reproduction exacte. La reproduction n'existe pas. Vous qui connaissez les mathématiques, il y a quelqu'un qui pourrait vous en parler très très bien de ça. Le duplicata n'existe pas. C'est impossible. Et c'est en cela que le nombre de représentations est tout à fait intéressant.
Et ça, c'est peut-être une grande différence fondamentale, en fait, entre le théâtre et le cinéma, où... deuxième prise doit être la même que la première, peut-être encore meilleure, alors que le théâtre, c'est jamais la même chose.
Non, puis le cinéma, c'est la saisie d'un instant volé, je pense. Et, on vole un moment à un acteur et on en fait après ce que l'on veut. On le laisse toute une journée dans des prises différentes, des séquences et des angles différents avec une lumière qui travaille, etc. On fait toute une cuisine autour de lui. Il est la viande du pot-au-feu, mais il y a toutes les pommes de terre et les carottes autour, et c'est ce qui donne aussi le goût. Et puis après, on choisit. Après, on choisit et le montage fait énormément de travail. Le problème, c'est que pour être bien au cinéma, je pense que c'est relativement simple, puisqu'il y a le phénomène du montage, mais y être merveilleux, c'est tout aussi difficile que d'être bien au théâtre. Ça, je pense vraiment. J'ai encore vu dernièrement La mariée était en noir à la télévision avec Madame Moreau. C'est l'immense dimension, c'est le chef-d'œuvre absolu. C'est une actrice monumentale. Et ça, pour arriver à ça, pour arriver à ce qu'on ressente malgré une image plane, virtuelle, qu'on ressente cette sensualité qui dépasse l'écran, comme ça, qui vous prend à la gorge, qui vous saisit le cœur, c'est comme Signoret, c'est comme Romy Schneider, c'est comme tous ces gens-là. Enfin, je peux en citer beaucoup. Hein. Et ça, c'est tout à fait je dis pas que c'est un art spécifique ou particulier. Je dis pas ça. Je dis que, quand même, c'est Wells qui disait ça dans des interviews. Il disait, quand même, le problème du cinéma, c'est que vous mettez Laurence Olivier, qui est également un roi de théâtre et un roi de cinéma, mais vous le mettez, et qui est un immense acteur, vous le mettez en face de Clark Gable ou de Gary Cooper. Je vais prendre l'exemple de Gary Cooper, qui n'est pas du tout un bon acteur. Ben, à l'écran, c'est Gary Cooper qui bouffe tout, et on peut rien. Et là, on rentre dans le mystérieux complet. La présence, l'âme, le regard, le nez, la bouche, le volume, au même titre qu'un sculpteur, que Michel-Ange, quoi. Vous prenez la même focale, la même coupe, avec Depardieu et X, et ben, y en a un qui envahit totalement l'image, et l'autre non. C'est à la focale la même, hein.
Est-ce que vous êtes capable de tout jouer ?
Alors, je vais dire une chose très bizarre, c'est hormis le fait que à 71 ans, avec 100 kilos et 1m87, c'est quand même difficile de jouer chez Rubin, je me dis quand même que si on me demande à lire chez Rubin, je saurai en sortir quelque chose qui ressemblera à quelque chose de chez Rubin. Voilà. Ce qui veut dire que hormis ce
qui veut dire oui.
Oui, j'ai d'imaginaire pour ça. Oui, tout à fait. Ça serait un très beau défi, ce serait très intéressant.
Ouais. Bien entendu. Bah, salut.
J'aime pas les défis. Les défis ne sont pas intéressants au théâtre, mais c'est intéressant et c'est amusant. Je veux dire pourquoi c'est intéressant. Si vous avez à jouer le roi Lear, par exemple, c'est pas inintéressant d'essayer de jouer chez Rubin, parce qu'un homme, qui est sur la fin de dans le naufrage, comme disait l'autre de l'âge, a aussi des espèces de retours en enfance totalement mystérieux, totalement inouï. On constate ça beaucoup chez les personnes âgées. Et ben alors là, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'il y a toujours un petit gamin qui est en nous, qui est là. Je dis que oui, tout est jouable et tout sert le rôle que vous jouez au moment où vous jouez.
Puisque vous abordez la question de l'âge, allons-y. Quelle est votre façon d'aborder la vieillesse, le temps dans votre métier, la mémoire, le rapport à la mémoire, le corps aussi, bien sûr.
J'ai envie de répondre le plus vraiment possible. La grande faux a failli me prendre il y a 2 ans. Je m'en suis sorti merveilleusement bien, et donc je dirais pas que tout est bonus, parce que ça va, j'ai encore l'âge de voir longuement l'âge de suite, mais surtout j'ai une sensation que un peu comme ce que je dis dans mon bouquin dans Paris-Beyrouth, c'est que cette chose un peu costaud quand même que vous avez à vivre face à la maladie vous renvoie au goût forcené de vivre, au désir, à l'amour, à la bouffe. Il faut faire très attention, vous avez envie de boire des très bons vins, de bouffer comme ils disent et tout, mais c'est vrai que ça recharge les batteries. l'appréhension très sensible de la mort, pour être très clair, ça recharge les batteries. Donc ça, c'est ce que je ne fais qu'enfoncer une porte très largement ouverte. Le deuxième élément, c'est que le temps pour moi est, je me dis que ça ne peut être que mieux, que je vais jouer de mieux en mieux, parce que je sais plus qui m'avait dit ça, que quand les acteurs vieux n'ont plus rien à prouver, plus rien du tout, on n'est plus dans l'état de preuve, on joue les mains en bas. Je crois que c'est Pierre Duc qui m'avait parlé de ça. Même si parfois ça me touche beaucoup de lire des choses pas gentilles ou de ceci ou de cela, ça peut arriver. Je m'efforce de dire mais tout ça n'est pas important, j'ai plus rien à prouver. J'ai 55 ans de route et qu'est-ce que c'est bien. c'est vachement, ça veut dire aussi qu'il y en a plus avant qu'après. Mais il faut le prendre comme ça, il faut se dire c'est vachement bien, parce que ça, c'est quelque chose que rien ne donne, c'est que le temps qui vous donne ça. Et moi, le temps me donne maintenant une sorte de sensation que je suis, oui, chez moi quand je joue en scène, voilà. Que ça se passe plutôt bien.
La mémoire ?
Alors la mémoire, je ne cache pas que c'est une des choses qui me fait peur, mais je crois que je ne suis pas le seul, ça fait peur la mémoire. Ce n'est pas du tout Alzheimer ou machin qui me fait peur, je le saurais. Ce qui me fait peur, c'est le fait que, ça c'est très technique ce que je vais vous dire, mais là aussi il faut répondre très technique à ce genre de questions. C'est que d'un seul coup, là, vous l'avez dû, vous êtes encore une enfant, mais vous avez, certains peuvent remarquer à un certain âge ou à un âge certain qu'on a des mini-trous. Sur les prénoms, ça commence par les prénoms. Puis après, c'est des milliardièmes de secondes de trou sur un mot, sur un truc. Ce qu'on n'a pas avant. Et moi, je me rends compte que ces milliardièmes de trous peuvent gêner mon rapport avec le texte. Ou, normalement, ce qui est très beau lorsqu'on joue la comédie, c'est d'arriver, ce que la salle, mon maître disait, arriver au stade de la mémoire oubliée. C'est-à-dire que c'est malgré vous, ça sort, blum, vous pouvez le sortir n'importe quand, n'importe comment, ça sort, blum, sans une faute, sans rien. Ça, c'est une chose qui, pour l'avoir, pour le garder, c'est plus si simple que ça, à 71 ans, tout simplement. C'est pas facile. C'est ça qui m'énerve un peu. C'est que maintenant, je redoute toujours ce tout petit trou qui va débarquer à un moment, je vais faire merde. Et hop, ça repart. Voilà. Sinon, le gros trou, bah, j'ai toujours eu peur, comme n'importe qui, du gros trou. Mais ça
vous est arrivé?
Oui, mais.
Vous vous en souvenez? Paradoxalement.
Oui, ça m'est arrivé. Il y a même une fois, j'ai eu le vrai trou de chez vrai trou. On a dû baisser le rideau même, parce qu'on me soufflait, j'entendais plus rien. Mais c'est parce que je saignais du nez, ce qui n'était pas grave du tout, mais ça m'avait fait peur. Et après, je me suis rendu compte que c'était rien du tout, ça arrivait. Mais j'en avais partout et tout, et donc ça m'avait... Hop. Et on pouvait souffler, ça venait plus. Je regardais le texte, ça venait... La machine refusait tout. Et puis, bon, aussi remis, puis c'est reparti. Puis voilà.
C'était une fois principale.
Vraiment une fois, oui. Ben après, il y a eu des petits trucs de temps en temps, mais rien du tout.
Ça, c'est pas une peur du comédien en scène, un trou,
Je pense que de toute façon, dans la peur, il y a une part de la, il y a une part qui est sur la mémoire, oui, c'est sûr. Ça compte. Et je pense que plus on vieillit, plus on a cette peur-là, quand même. Ça, je crois. Mais ça dépend aussi des acteurs, parce qu'il y en a qui ont des espèces de mémoire absolument de champion du monde, puis qui sont entraînés. Vous prenez par exemple les acteurs du français, ils sont tellement entraînés à faire plein de pièces, plein de trucs, que Mais justement, alors c'est là où il faut faire gaffe, c'est que parfois vous croyez tellement entraîné que vous vous déconcentrez et pouf, il y a un truc qui s'arrête.
Est-ce que Jacques Weber, et ça va nous amener à l'émission de demain, est-ce que vous vous souvenez de Cyrano? Du texte.
Si on me dit joue-le, je pense, on est quel jour, je sais pas quel jour on est, mais...
Là, on est mercredi.
On est mercredi, oui, dimanche, je peux le jouer. Peut-être je pense, il suffit que je retravaille un peu, ça revient. C'est là, dans un coin. Si vous me demandez là tout de suite, il y a certains passages que je peux vous citer par cœur, mais il y en a d'autres que j'ai vraiment, qui sont plus là. Il suffit que je relise attentivement, que je travaille un peu 5-6 heures dessus, pouf, ça revient. Non.
Alors, vous allez travailler cette nuit, puis demain, on verra, par exemple, la tirade des non-merci. On parlera de Cyrano. Oui.
D'accord.
À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Caroline Brouet avec Jacques Weber. Avoigny, réalisation Vanessa Nadjar, prise de son Nicolas Mathias, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. Avoigny se réécoute ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.